Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Happy Ed Tech, le magazine technologique de la formation. Aujourd'hui, on aborde un sujet très important sur la prospective de la formation. Il s'agit de la blockchain, on en parle beaucoup, certains parlent de learn chain, donc les mots sont utilisés. Est-ce qu'il s'agit d'un buzzword? Est-ce qu'il s'agit d'une technologie qui n'a rien à voir avec la formation? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on a la chance d'avoir Alexandre Tchakonski, qui est un expert de la blockchain, qui va nous permettre de nous présenter quelles sont les grandes tendances. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est sulfureux, c'est une technologie qui existe depuis 2008. Est-ce que ça a du sens pour travailler sur la formation? Et qu'est-ce que les responsables de formation dans leur entreprise peuvent en faire? Est-ce qu'il faut dire non à la blockchain? Est-ce qu'il faut rentrer ou s'intéresser à la blockchain? Donc, on a un expert qui nous accompagne et donc vous pourrez lui poser toutes les questions une fois que l'émission sera terminée dans les notes de l'émission. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Alors, première question de suite. Qui intéresse tout le monde. Finalement, on parle de la blockchain, mais la blockchain, qu'est-ce que c'est?
Alors, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une question qui est souvent abordée sous le prisme technique. Moi, je vais vous proposer de prendre un peu de recul pour répondre à cette question, en essayant de répondre à la question à quoi ça sert et pourquoi ça existe, avant de dire qu'est-ce que c'est. Et donc, pour comprendre à quoi ça sert et d'où ça vient et pourquoi ça existe, il faut repartir en 2008. Et d'ailleurs, la situation... actuelle nous permet de nous y replonger d'autant plus. C'est une situation de crise financière, c'est une situation de crise de confiance dans les institutions financières traditionnelles, dirons-nous. Et donc certaines personnes commencent à se dire qu'est-ce que les banques font avec mon argent, est-ce que je peux leur faire confiance, etc. etc. Mais c'est une époque où, en fait, si vous voulez gérer de la valeur en ligne, donc de l'argent notamment, et bien en fait, vous êtes obligé de passer par un tiers de confiance. Et donc, c'est un peu un cul-de-sac pour plusieurs personnes qui commencent à se dire « j'aimerais bien pouvoir faire comme les banques, mais sans les banques, si possible ». Dans la vie réelle, j'allais dire du monde physique, on peut déjà le faire, en fait, puisque les billets qu'on a dans notre poche, c'est de l'argent banque centrale, donc il n'y a pas de banque commerciale qui se met entre la banque centrale et moi-même. Alors que dans le monde numérique, et ben en fait, on est obligé de passer par des banques. Et donc à cette époque-là est inventé le Bitcoin, qui est la première des ce qu'on appelle des crypto-monnaies, mais pour l'instant, restons-en simplement, c'est une monnaie numérique, ce sera plus simple. Et en fait, cette monnaie numérique, elle propose pour la première fois de pouvoir justement faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant, à savoir se passer d'un tiers de confiance en ligne pour envoyer de la valeur. Pour prendre une métaphore peut-être un peu plus explicite, la différence fondamentale qu'on peut trouver entre le monde physique et le monde numérique quand il s'agit d'échanges d'informations, prenez l'exemple d'une carte postale. Une carte postale, quand vous l'envoyez dans le monde physique, la réalité c'est que vous ne la possédez plus une fois que vous l'avez envoyée. Dans le monde numérique, c'est pas tout à fait pareil, puisque si vous envoyez un email, il n'est jamais supprimé de votre ordinateur. Vous l'avez toujours, la personne l'a en face, etc., etc. Pourquoi ? Parce que vous l'avez copié. En réalité, vous n'avez rien envoyé du tout. Vous n'avez fait que copier de l'information. Et donc, on comprend bien que ça marche pour tout ce qui est information. Mais dès que on touche à la valeur, on comprend bien que si j'avais 10 euros, que je les envoie et que je les ai toujours après, voilà, y a quelques problèmes qui sont générés, sauf si je suis la banque centrale. Mais c'est un autre sujet, évidemment. Donc, on a ce problème-là fondamental sur Internet, qui est qu'on ne sait pas gérer la valeur, on ne sait pas gérer la rareté, puisque dès qu'on veut toucher à de la rareté, et bien en fait, mécaniquement, le fait qu'elle soit numérique fait qu'on peut la copier des centaines de milliers de fois et donc on lui enlève sa qualité de rareté. Bitcoin est la première des monnaies qui nous permet de faire ça en ligne. Et comment marche Bitcoin? Eh bien, Bitcoin s'appuie sur un système qui s'appelle la blockchain. Et en fait, au départ, la blockchain, c'est simplement le nom qu'on donne à une façon d'organiser des données en ligne pour permettre l'existence d'une monnaie numérique qui fonctionne sans banque centrale. De la même façon, pour comprendre un peu la dichotomie entre les deux, c'est comme vous avez Internet, vous avez le web, et puis vous avez HTTP, TCP/IP, ce sont des protocoles. Ici, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que la blockchain, c'est la partie protocole, c'est une partie très technique finalement, et puis les crypto-monnaies, les crypto-actifs, les actifs numériques de manière générale, c'est la partie applicative qui devrait plus nous intéresser en fait que la partie sous-jacente, sauf évidemment si on travaille dans l'informatique, mais c'est un autre sujet.
Est-ce que finalement, sur les crypto-monnaies, puisque au départ c'était ça la technologie de la blockchain, c'est pas le phénomène spéculatif qui fait peur à tout le monde, puisque finalement, on ne comprend pas bien la spéculation et qu'on s'aperçoit que Nabila a pris position fortement pour la blockchain. Donc, il faut pas hésiter à soutenir Nabila si on y croit. Mais ça montre aussi que les gens ne savent pas quoi en faire. Et pendant longtemps, ils ont vu le cours du Bitcoin progresser, s'effondrer d'un seul coup, ce qui est le principe. Et finalement, comme c'est très aléatoire, c'est pas ça qui a créé ce sentiment un peu de frustration en disant je comprends pas comment ça marche, c'est erratique et c'est peut-être pas fait pour une entreprise sérieuse.
Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est aléatoire tant qu'on ne comprend pas. Mais c'est comme si je regarde les cours des marchés de la bourse en ce moment, je peux rien dire d'autre que c'est aléatoire parce que je ne comprends pas. Donc, c'est toujours la même chose. Nabila, évidemment, a été payé pour faire de la publicité. Il y a beaucoup d'autres influenceurs qui ont été payés pour faire de la publicité. Ça arrive sur tout. Ça arrive sur les métaux précieux. Ça arrive sur les diamants. Ça arrive sur le forex. Voilà. Donc, c'est pas spécifique aux crypto-monnaies d'avoir ce genre de volatilité ou bien d'incompréhension vis-à-vis du cours. Mais effectivement, c'est ce qui a nourri beaucoup d'incertitudes autour de ces crypto-monnaies, de ces crypto-actifs, parce qu'au départ, c'est quelque chose qui ne sort pas d'une institution reconnue, en fait. Ça a la même histoire qu'Internet, et encore, parce qu'Internet s'est irrigué par la philosophie cypherpunk, mais en réalité, au départ, c'est l'armée américaine, donc c'est quand même, ça émane d'une chose centralisée, en fait, d'une certaine façon. Ici, vraiment, ça émane de quelqu'un qui arrive sur un forum et qui dit « j'ai une idée ». Et donc personne ne s'attendait à ce que ça prenne autant de proportions et que ça sorte du cadre de l'expérimentation. Et la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça pèse plus de 250 milliards et que les gens s'en échangent tous les jours. Il y a plus de 25 milliards de volume de Bitcoin, par exemple, qui sont échangés tous les jours. Donc ça a pris des proportions effectivement assez intéressantes, et pour une raison qu'on finit par comprendre de plus en plus, qui est que dès qu'on comprend tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que pour la première fois, on a une technologie qui nous permet de gérer de la valeur en ligne, bah en fait, on se retrouve devant le constat que potentiellement, ce que la blockchain et les crypto-monnaies vont faire à la valeur, c'est ce qu'Internet a fait à l'information. Et donc, on retrouve les mêmes mécanismes, on retrouve la même vague importante qui va peut-être balayer certaines choses des anciens acteurs, mettre des nouveaux acteurs à la place. Ça, c'est très fortement imaginable. Avec aujourd'hui des frictions, en particulier en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, qui sont que, par exemple, bah, vous avez des acteurs qui sont dans une position... qui fait qu'ils n'ont pas envie de voir ces technologies se développer. Si vous prenez La Poste il y a 25 ans, ce n'était pas les premiers à vouloir voir l'email se développer. Aujourd'hui, c'est plutôt les institutions financières, les banques, qui sont dans cette situation-là, donc qui ne font pas tout, on va dire, pour que ça se développe, et en particulier en France. Mais il n'y a pas de... comment dire ? Il y a eu cette aura, on va dire, des débuts de la technologie qui a fait que voilà, c'était un peu shady, il est censé avoir de la drogue, etc. La réalité, c'est que étude après étude et année après année, tout le monde prouve que c'est complètement faux et que c'est même l'inverse. Les dernières études d'Interpol et d'Europol, par exemple, c'est que Bitcoin est utilisé pour 1% dans des transactions illicites, illégales ou pour de la fraude. Pour le dollar, c'est 3 à 5%, donc c'est beaucoup plus. En fait, quand on comprend la technologie et qu'on sait qu'elle permet une traçabilité très forte, en fait, on comprend très vite pourquoi. Voilà, donc il y a cette aura qui existait, qui malheureusement nous a fait perdre quelques années, mais qui se dissipe pour le mieux, je pense. Alors après, je suis biaisé, évidemment, puisque je travaille dedans, mais je pense que c'est pour le mieux et que plus on va aller vers les vrais sujets que sont les actifs numériques, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les régule, comment on fait en sorte que ça vienne dans l'économie de tous les jours, mieux on se portera.
Est-ce que justement, comme Facebook a pris une position avec le Libra, ça n'a pas aidé à la vulgarisation du Bitcoin ou des monnaies numériques ?
Si, bien sûr, ça. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que le projet proposé par Facebook sur le papier est en réalité un peu une dystopie, parce que c'est une monnaie privée qui serait contrôlée par un board d'actionnaires où il faudrait rendre des comptes. C'est pas forcément le monde dont on a envie, surtout quand on travaille dans ce milieu-là où on valorise vraiment la confidentialité par exemple, mais c'est malheureusement, j'allais dire, et heureusement puisque ça a mis le sujet sur le devant de la scène, mais malheureusement il faut que Facebook arrive pour que enfin on finisse par se dire tiens, il y a quelque chose qui se passe. Disons qu'avant Facebook c'était considéré comme un sujet de geek dans son garage au mieux et au pire comme un financement du terrorisme. Après Facebook, bah, c'est devenu le sujet du G7, ils ont fait des réunions pour en discuter, qu'est-ce qu'on fait, c'est vrai qu'il y a des sujets autour de la monnaie, et puis là on a commencé à voir les vrais sujets, à savoir les sujets géopolitiques, les sujets monétaires, les sujets économiques. Donc merci d'une certaine façon à Facebook d'avoir remis ça sur le devant de la scène et de nous éviter 2 ans de plus à parler de la technologie sous-jacente blockchain et à essayer de mettre des briques ensemble alors qu'elles ne fonctionnent pas. Merci à Facebook d'avoir changé un peu le projecteur de sens. Mais en même temps, c'est un peu triste qu'il faille cela.
En tout cas, ça a obligé à se prendre position pour ou contre, mais ça a obligé à argumenter. Dans les
Exactement.
rumeurs, et pour terminer avec les rumeurs, on parle beaucoup de la Chine. On dit, et donc vous expliquerez peut-être ce que ça veut dire, qui mine des bitcoins et donc qui influence la valeur du bitcoin. Est-ce que c'est vrai, fake news?
Alors, c'est, on va dire, partiellement vrai, mais à mesurer beaucoup. Alors, déjà, il me faut du coup parler un petit peu de ce que c'est que le minage pour expliquer ce que c'est. En réalité, la manière dont est sécurisée la technologie blockchain la plupart du temps, donc en particulier sur Bitcoin, c'est qu'il y a des ordinateurs sur la planète qui sont en compétition pour la résolution d'un calcul mathématique. Et le premier ordinateur qui trouve le résultat d'un calcul, d'un problème mathématique se voit en fait attribuer une partie de la création monétaire de la monnaie en question. Donc sur Bitcoin par exemple, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau calcul qui est proposé au réseau d'ordinateurs. Ce réseau d'ordinateurs, tous les ordinateurs sont en compétition pour trouver en premier la solution à ce problème. Et le premier ordinateur qui trouve la solution à ce problème se voit attribuer en ce moment 12,5 bitcoins, et puis dans quelques mois, ça va passer à 6,25. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce processus-là, il n'existe pas juste pour faire joli, il existe parce que c'est le seul qu'on a trouvé à l'heure actuelle qui sécurise un réseau d'ordinateurs qui ne se font pas confiance. Hein, je rappelle qu'il n'y a pas d'autorité centrale dans ce réseau-là, c'est un peu comme Internet. Tout ça pour s'échanger de la valeur en ligne. Donc on a trouvé cette méthode-là, enfin en tout cas le créateur ou la créatrice de Bitcoin a trouvé cette méthode-là. Et donc ça fait que mécaniquement, c'est un peu une course à l'armement. Une course à l'armement parce que c'est celui qui aura le meilleur matériel de calcul qui en fait aura plus de probabilité de gagner cette récompense monétaire. Donc en ce moment, 12,5 bitcoin, je crois que c'est à 7 000 euros, quelque chose comme ça, le bitcoin. Ça fait quand même pas mal d'argent pour arrondir ses fins de mois. Non, je rigole. Aujourd'hui, c'est devenu des entreprises. Hein. C'est devenu un milieu concurrentiel avec des entreprises qui ont des hangars complets avec des machines qui calculent. Donc la réalité, c'est que quand vous êtes une entreprise, justement, avec un profit and loss, comme n'importe quelle entreprise, vous avez des charges, vous avez des profits, etc., enfin des revenus, en fait, vous essayez d'être rentable. Analysons 30 secondes, justement, pourquoi ces entreprises sont ou ne sont pas rentables. Elles ont des charges. Des charges, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de coûts fixes, acheter les machines, et puis voilà. Mais ensuite, c'est énormément, et c'est leur grosse majorité de coûts, des coûts variables liés à l'électricité. Puisqu'évidemment, vous avez des machines qui calculent toute la journée, qui consomment de l'électricité. Donc plus votre électricité coûte cher, moins vous êtes rentable. Donc côté charge, en fait, et les revenus, c'est simplement de la vente de Bitcoin, en fait. Donc c'est assez simple, c'est une industrie qui, en fait, a pour avantage de n'être pas géolocalisée. Vous en fichez de faire des calculs en Afrique, en Asie ou en Europe, on s'en fout, vous allez là où l'électricité est le moins cher, parce que c'est ça qui vous rendra le plus rentable. Et donc avec ce dernier point, ça me permet justement de répondre à la question, où est-ce que l'électricité est moins chère? Bon, en fait, vous avez deux facteur clé de cela. Le premier, c'est effectivement quand vous avez des pays comme la Chine qui produisent énormément d'électricité et où vous pouvez avoir des arrangements avec le gouvernement, le parti, le gouvernement local, etc., pour avoir de l'électricité pas chère, premièrement. Mais deuxièmement, et ça explique aussi en partie beaucoup pour la Chine, vous allez là où il y a des sources d'énergie renouvelable intermittentes. Pourquoi? Parce que c'est des... Prenez un barrage, par exemple. Alors, barrage, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais si vous prenez les panneaux solaires produisent de l'électricité toute la journée, alors que, en fait, personne n'en a besoin pendant la journée, puisque c'est surtout la nuit dont on en a besoin, mais la nuit, ils n'en produisent plus. Donc, c'est ça toujours le problème avec les énergies renouvelables, c'est que c'est très intermittent, ça ne produit pas exactement quand on a besoin, et on ne sait pas la stocker. Donc, en fait, quand vous êtes un mineur, donc quelqu'un qui fait ce genre de calcul, vous allez aller voir les entreprises d'énergie renouvelable intermittente et leur dire « moi, je suis capable d'absorber votre surproduction ». Et donc, généralement, des deals se font pour que les mineurs puissent obtenir de l'électricité extrêmement peu chère. Pourquoi? Parce qu'ils absorbent la capacité de surproduction d'une entreprise qui, de toute façon, aurait vendu à perte, voire aurait perdu son électricité parce que personne n'en voulait. Et donc, vous retrouvez beaucoup de mineurs, en fait, aux endroits où, un, il fait froid, parce que ça coûte moins cher de refroidir les serveurs, deux, où l'électricité coûte pas cher. Et donc ça va se retrouver pas mal typiquement en Chine, en bas d'un barrage. Vous allez en bas du barrage des Trois Gorges, vous allez au Sichuan, il y a beaucoup beaucoup de barrages dans tous les sens et ils n'ont pas de zone de consommation pour pallier cela. Et donc vous allez avoir beaucoup de mineurs qui se mettent là-bas. Mais ça, c'était vrai beaucoup il y a encore quelques mois et années. C'est en train de s'harmoniser un peu plus au niveau mondial. Et on trouve des mineurs au Canada, on trouve des mineurs en Islande, on trouve des mineurs en Géorgie, etc., etc. Maintenant, bon, ce sera jamais parfait. On peut pas avoir un mineur dans tous les pays, mais c'est moins centralisé que fut un temps.
Donc effectivement, c'est une technologie qui est sécure, qui présente, qui trouve aussi son rythme de croisière après avoir eu un démarrage. Pour les entreprises, on a beaucoup d'entreprises, on parle de bulles Bitcoin. Il y a une entreprise, par exemple, de distribution de pizza qui, pour lever des capitaux, a parlé de Bitcoin. Est-ce que finalement, c'est du buzz ou est-ce que finalement, l'entreprise peut s'approprier cette technologie?
Alors, tout ce qui est levée de fonds en crypto-actifs, crypto-monnaie, qui a eu lieu notamment 2017-2018, pour faire très court, la plupart c'était des arnaques qui profitaient du mouvement général autour du buzz qu'il y a eu autour de ces technologies-là. Le Bitcoin a également profité, entre guillemets, de la bulle avant de revenir à un prix un peu plus normal et aujourd'hui est à 7 000, 8 000 euros, comme je disais tout à l'heure. Mais donc, du coup, pendant cette période d'euphorie pendant laquelle, en gros, personne ne comprenait grand-chose, mais voyait le prix qui faisait x2 de jour en jour, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont profité pour simplement lancer des projets qui n'ont pas de sens et dire, je suis le nouveau Bitcoin, achetez-moi. Et donc, alors, je ne sais pas pour cette entreprise en particulier qui fait des pizzas, c'est possible que ce soit tout à fait légitime, mais pour en avoir vu un certain nombre, la plupart des entreprises qui faisaient ça il y a maintenant 2 ou 3 ans étaient plutôt rangées dans la catégorie arnaque. Maintenant, c'est normal, encore une fois, c'est toute nouvelle technologie, de la même façon qu'il y a eu une bulle Internet. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter Internet aujourd'hui. Enfin, je pense que personne n'est assez fou pour dire ça. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu un engouement irrationnel autour de ces technologies, donc beaucoup de gens sont partis dessus et ont fait n'importe quoi. Mais il y a d'autres entreprises qui développent des fondamentaux très intéressants. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette technologie d'un point de vue entreprise? Alors, on peut en faire plusieurs choses, mais ça dépend du prisme selon lequel on l'aborde. En gros, soit on veut, je vais partir plutôt sur une typologie assez rapide, ça permettra de y voir plus clair.
Très bien,
Cette typologie, en gros, il faut voir 3 grands types de cas d'usage, voire en quatrième, j'en rajouterai peut-être un. Le premier type de cas d'usage, c'est tout ce qui va avoir trait à la certification, à l'intégrité de fichiers ou de documents numériques. Ça, on va se servir en réalité de la technologie blockchain comme d'un registre extrêmement sécurisé et qui, comme il n'a pas de tiers de confiance, en fait, est peu sensible à la censure. Donc, typiquement, pour ceux qui connaissent par exemple les enveloppes Solow, donc qui sont les produits de l'Institut national de la propriété intellectuelle, quand vous êtes graphiste par exemple, vous avez un dessin à protéger, vous allez acheter à l'INPI une enveloppe Solow qui vous garantit quoi? L'antériorité sur votre dessin, c'est vous qui l'avez fait. Et qui vous garantit aussi qu'ils ne le révéleront pas jusqu'à ce que vous le demandiez. Ça coûte 15 ou 20 euros, je ne sais plus, pour protéger son dessin, sa propriété intellectuelle, ce que vous voulez. En fait, ce qu'on peut faire grâce à la technologie blockchain, c'est la même chose, mais sans l'INPI. Et donc également en abaissant les prix drastiquement. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, nous, donc Blockchain Partner, qui est l'entreprise que j'ai cofondée, on propose un service qui fait ça, exactement ça, qui s'appelle Data Trust. Et pour le coup, on peut avoir des abonnements mensuels qui ne dépendent pas du nombre de fichiers certifiés. Donc, si vous voulez, vous pouvez certifier 1 million de fichiers dans le mois, ça vous coûtera quelques centaines d'euros et pas plus. Pourquoi? Parce que la technologie qu'on utilise, nous, qui est la blockchain, est beaucoup plus scalable. Donc, on peut se permettre de certifier dans tous les sens, d'avoir autant de dessins industriels à certifier que vous voulez, et on peut le facturer à un abonnement fixe sans souci. Donc, ça, c'est un premier type de cas d'usage. Typiquement, nous, ça, on l'a fait par exemple pour l'État de Genève qui va vouloir certifier ses CABIS, donc le registre du commerce de l'État de Genève. On le fait pour
Ça peut être aussi pour les notaires, les experts comptables.
Oui, en fait, toutes les professions qui vont avoir besoin d'une sorte de tampon de sécurité pour de l'intégrité ou de la certification de documents. Donc là, par exemple, je m'apprêtais à ajouter justement qu'on peut l'avoir fait aussi pour nous, on le fait pour un réseau de laboratoires, pour qu'ils puissent garantir leur paternité sur des éventuels brevets ou sur des recherches qui sont en cours. Donc ça c'est vraiment bien parce que la technologie étant mondiale, en plus, ça donne un référentiel mondial pour l'intégrité de ce fichier. Alors, sur ce point, attention, parce qu'il y a souvent des confusions qui sont faites. Cette technologie-là, elle permet d'apporter à des documents de l'intégrité, première chose. Donc ça veut dire que ça n'a pas été touché depuis un certain temps, par exemple, c'est le même document. Ça permet de garantir de l'antériorité, puisqu'on a un horodatage qui vient avec, donc ça a été fait tel jour, telle heure. Par contre, pour tout ce qui n'est pas numérique par nature, ça ne garantit pas l'authenticité. Typiquement, il y a des cas d'usage, par exemple, certification de diplôme, certaines écoles le font, certains instituts de formation probablement aussi. On peut avoir l'intégrité et l'antériorité de ce diplôme, mais on peut très bien faire ça sur un faux diplôme. Donc, il reste quand même en amont une étape d'authenticité quand le document existe dans le monde réel avant, eh bien d'avoir un tampon. C'est ce qu'on fait avec l'État de Genève. Il y a l'État de Genève qui met un tampon quand même sur le document pour dire c'est bon, c'est moi.
Sauf si l'école utilise la blockchain pour délivrer son premier diplôme.
Alors, c'est indépendant en fait, parce que l'école peut émettre son diplôme très bien, mais il suffit, moi, que du coup je regarde à quoi ressemble un diplôme, que je le falsifie et que je le re-ancre dans la blockchain, et ça y est, on va me dire que j'ai un diplôme qui est original. La blockchain ici va me servir à garantir que ça n'a pas été touché depuis, que c'est le même document, que j'ai l'antériorité, c'est-à-dire ça a été redaté tel jour, telle heure, mais par contre, savoir si c'est un vrai ou un faux diplôme, c'est pas à la blockchain de s'en charger, c'est à l'institut initial. Nous, avec l'État de Genève, c'est qu'il y a une signature en plus. Donc, il y a une signature électronique qui est faite, qui permet d'identifier que la transaction, ou en tout cas la transaction parce que c'est le véhicule, mais on s'en fiche un peu, mais en tout cas, le document va être ancré par l'État de Genève. Donc ça, c'est pour le premier type de cas d'usage. On a un type de cas d'usage qui s'oriente plus autour de tout ce qui est traçabilité de responsabilité. Et j'insiste sur traçabilité de responsabilité parce que on voit souvent la confusion comme quoi la blockchain tracerait aussi les actifs physiques. Alors, je rassure tout le monde, la blockchain n'existant pas dans le monde physique, elle n'en sait rien si votre actif est perdu ou cassé ou je ne sais quoi. Donc en fait, on trace des responsabilités souvent avec les technologies blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une chaîne logistique et que vous voulez bien vous assurer que le camion a bien livré à tel endroit, tel jour, telle heure, et qu'après on a bien transféré ce produit à tel endroit, dans telle usine, etc., et ce jusqu'au consommateur final, c'est une technologie qui permet de le faire, mais qui permet de le faire souvent à un certain prix. Soit on s'oriente vers une infrastructure plutôt publique, et dans ce cas-là, en fait, on va avoir des problèmes de confidentialité. Soit on s'oriente vers une infrastructure plutôt privée, et c'est plutôt le choix de la plupart des entreprises jusqu'à présent, en tout cas sur ce cas d'usage-là, sauf qu'on va avoir comme problème qu'il faut monter un consortium, en fait. C'est-à-dire que s'il faut recréer une infrastructure à partir de zéro, ça veut dire créer un consortium, ça veut dire mettre tout le monde d'accord, ça veut dire attirer des financements pour ce consortium, ça veut dire définir une gouvernance, etc., etc., et en fait, la blockchain devient un peu le cadet des soucis de tout le monde parce que ça devient 3% du projet, le reste étant en fait de la gestion de projet, du gouvernance, du légal, etc., etc. Donc ça peut
par consortium, c'est tous ceux qui participent au projet dans le transport, dans les choses comme ça, et donc on les met autour de la table pour qu'on trouve un accord.
Tout à fait, en fait ça ne marche que si tout le monde est sur la même technologie, ouais. Et que tout le monde a un serveur chez soi pour faire tourner l'applicatif. Donc effectivement, si typiquement vous avez parfois des entreprises qui disent bah moi j'aimerais bien faire de la supply chain blockchain, pourquoi pas, allons-y, ils font un consortium, il n'y a pas un accord sur la technologie, du coup ils disent bon bah pas de souci, c'est moi qui vais héberger le truc et puis vous profiterez de mon service. Bah oui, mais en faisant ça ils enlèvent l'intérêt même de la technologie blockchain, parce qu'en fait si vous faites une blockchain et que vous l'hébergez tout seul chez vous, ça s'appelle un tableau Excel, hein. Donc ça ne sert strictement à rien. Parce que ça n'a pas la couche de sécurité, parce que vous pouvez aller changer quand vous voulez, parce qu'il n'y a pas de résistance à la censure. En fait, il n'y a rien. Donc, un tableau Excel, si vous voulez, ça coûte beaucoup moins cher de juste ouvrir un tableau Excel et de le faire. Donc, c'est pour ça. C'est très important quand on fait une blockchain from scratch, donc sans s'appuyer sur une infrastructure déjà existante, eh bien, en fait, de s'assurer que chacune des parties prenantes du consortium va héberger un serveur qui permettra de faire tourner. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et que ça devient des projets extrêmement lourds qui peuvent prendre 2-3 ans et en fait on n'a toujours pas vu presque aucun résultat en fait de ces consortiums qui ont été lancés il y a maintenant 2-3 ans. On voit qu'il y a quand même quelques effets d'annonce notamment autour de Carrefour et de sa blockchain en ce moment, mais c'est très lent par rapport à des cas d'usage sur blockchain dite publique ou en tout cas avec des crypto-actifs qui en fait peuvent prendre 2 mois à déployer. Nous, ce qu'on a fait pour l'État de Genève, ça nous a littéralement pris 3 mois à déployer et c'est en production. D'accord. Donc c'est pas du tout le même niveau de complexité. Pour reprendre ce dont on parlait avant l'interview, c'est la même chose quand on fait une application sur un téléphone. Bon, on développe l'application et puis au revoir. C'est pas la même chose de faire un intranet. Faire un intranet, il faut des serveurs, etc., etc. Donc c'est un peu la même mentalité. Et donc pour terminer ma typologie. Il reste un troisième type de cas d'usage qui est un peu un fourre-tout, mais qui est assez prometteur. En fait, c'est que on arrive à déployer sur des blockchains en fait des logiques de la même façon que l'informatique normale, on permet de programmer. Donc, on peut programmer le fait que s'il se passe quelque chose, il va se passer autre chose. En fait, ça, dans l'informatique normale, on ne sait pas le faire encore une fois sur la valeur, puisque, comme je l'ai dit au tout début, on ne sait pas gérer la valeur dans le monde numérique. Il y a certaines blockchains, en particulier Ethereum ou Tezos en France, qui sont des blockchains qui permettent de la programmabilité et donc qui deviennent extrêmement intéressantes parce que, évidemment, vous avez des cas d'usage très forts qui se développent. Typiquement, prenez l'assurance. Le concept même de l'assurance, c'est quand même qu'il faut payer s'il se passe quelque chose. Et donc, maintenant qu'on a l'occasion de programmer ça sans tiers de confiance, bah, en fait, ça ouvre toute une perspective en termes de cas d'usage. Ça peut être de l'assurance, ça peut être plein d'autres choses, plutôt dans l'industrie financière, mais pas que. Comme je disais tout à l'heure, on travaille beaucoup aussi dans le jeu vidéo, dans l'industrie tout court, dans l'industrie automobile. En fait, partout où on a besoin de déclencher des paiements selon des conditions. En fait, en réalité, ça touche tout le monde, les paiements. Tout le monde gère de l'argent, sinon on n'aurait pas d'entreprise, puisque le but d'entreprise, in fine, c'est aussi de faire du profit.
Très bien.
Ça, c'est pour la typologie.
Il y avait peut-être une quatrième que vous avez...
En fait, c'est la quatrième, c'est plutôt non pas de se dire comment je fais de la blockchain, mais de dire qu'est-ce que je fais avec les cryptoactifs et les crypto-monnaies. Ouais, typiquement, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un des cas d'usage et que ça ne rentre pas dans la typologie, mais par contre, prenez les professions comptables, elles ne sont pas en train de se demander qu'est-ce que je vais faire avec la blockchain, mais elles sont en train de se demander en fait, j'ai des clients qui gèrent des crypto-monnaies, qu'est-ce que je fais ? Ou est-ce dans quel compte ? Est-ce que c'est de la trésor ? En quoi ma profession va être affectée par cette nouvelle gestion-là ? Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Pour le sujet comptable, moi, j'ai fait partie du groupe de l'autorité des normes comptables pour définir les nouvelles normes comptables sur le sujet. Et typiquement, le comptable de mon entreprise, manifestement, il doit gérer les cryptos puisque nous, on en a. Et donc, ça, c'est des nouvelles choses qui leur arrivent dessus et qui ne sont pas forcément préparées. Mais vous pouvez réfléchir à ça en tant qu'entreprise de retail, en tant qu'entreprise d'informatique. Vous pouvez dire, est-ce que j'accepte les bitcoins ? Prenez un Starbucks, est-ce que vous préférez gérer 180 monnaies au niveau mondial dont les trois quarts sont pas vraiment très stables ? Ou est-ce que vous préférez gérer une monnaie mondiale que vous pourrez vendre, que vous pourrez permettre à vos clients de payer dans cette monnaie-là ? Voilà, donc en France, cette réflexion, elle n'est pas vraiment avancée pour des raisons culturelles en particulier, mais traverser la frontière, vous allez en Suisse, vous allez sur une borne de la CFF, qui est la SNCF Suisse, on peut acheter des bitcoins sur une borne de la CFF Suisse.
Donc, Monoprix de mémoire accepte les financements en bitcoin. Alors, ils l'ont annoncé.
Je n'ai pas vu ça, mais si c'est le cas, c'est très bien. Mais il y a effectivement plein d'entreprises qui commencent à le faire. Alors, en ce moment, étant donné les tumultes qu'il y a dans le monde financier, c'est pas trop la période pour annoncer ce genre de choses, mais vous avez des Amazon, des Microsoft, etc., qui acceptent les bitcoins. On peut payer en bitcoin on pouvait en tout cas jusqu'à récemment sur Steam, par exemple, une plateforme de jeux vidéo. Donc ça se développe. Par essence, c'est un peu la monnaie du monde numérique, donc il peut y avoir des avantages. Ou même, je vais terminer peut-être avec un cas d'usage plus pour les particuliers, mais on est tous des professionnels et des particuliers. Vous allez dans un pays où vous voulez renvoyer de l'argent, ça c'est le cas d'usage peut-être même le plus éloquent. Vous travaillez dans un pays et vous voulez renvoyer de l'argent à votre famille dans un autre pays, donc ça c'est un marché quand même qui fait 500 à 600 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, ce marché-là, il est accaparé par en gros quelques acteurs type Western Union, les banques, etc. Si vous passez par une crypto-monnaie, vous n'aurez pas toutes les commissions que vous prennent tous ces acteurs intermédiaires. Donc typiquement, la transaction moyenne sur Bitcoin, ça coûte, je crois, 10 ou 15 centimes de frais de transaction et ça prend 10 minutes. Donc, à comparer à peut-être 8 ou 9% de commission que va prendre un Western Union et 3 jours ouvrés pour un virement. Donc, dans un cas, vous envoyez ça vendredi à 17h, vendredi à 17h10, votre contact a reçu et ça vous a coûté 15 centimes. Dans l'autre cas, ça vous a coûté peut-être 100 ou 150 euros parce que ça va être 10% sur 1000 euros. Et puis évidemment, comme on est vendredi, samedi, dimanche, c'est pas ouvré, lundi, mardi et mercredi, c'est bon, vous avez reçu. Donc là, on a un vrai cas d'usage où il y a une vraie différence entre l'utilisation d'une crypto-monnaie et l'utilisation d'une monnaie traditionnelle. Voilà. Après, il faut qu'en face, évidemment, ils utilisent des crypto-monnaies. C'est une question d'adoption, en fait, c'est comme toutes les monnaies. Tant qu'il n'y a pas assez de monde qui l'utilise, tout le monde s'en fiche. Et puis le jour où c'est un peu plus adopté.
Et le fait que Bruno Le Maire ait pris position en disant qu'il aimerait que la France soit terre de Bitcoin, est-ce que c'est une façon de lancer un peu, de valider, de reconnaître un peu la technologie et d'aider un peu à son développement ?
Alors,
aucun impact.
À mon grand dame, il n'a pas dit qu'on serait une terre de Bitcoin, mais une terre de blockchain.
Blockchain, pardon, absolument, tout à fait, vous avez complètement raison.
merci, parce que justement, ça me permet de faire cette distinction malheureuse, c'est que en réalité, quand on parle de Bitcoin ou de blockchain, on parle presque de la même chose. À 99%, c'est la même chose. Et d'ailleurs, pendant quelques années, le terme Bitcoin était utilisé pour dire blockchain. Donc, c'est vous dire à quel point ces deux technologies, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce et on ne peut pas séparer vraiment l'un de l'autre. Mais il y a eu, depuis 2015, une sorte de vernis, effectivement, pour outrepasser le côté sulfureux de Bitcoin, où on a dit blockchain. On a dit blockchain partout, et donc ça a permis de passer outre ce côté crypto-monnaie. Mais malheureusement, comme blockchain ne voulait pas dire grand-chose, beaucoup de gens ont mis ce qu'ils voulaient derrière, à savoir parfois exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire oui, on va faire une blockchain, mais sécurisez-la chez vous dans vos serveurs, et tout va bien se passer. Bah, ça s'appelle un tableau Excel, et tout le monde s'en fout. C'est pour ça que je dis à mon grand dame, parce que dans le propos de Bruno Le Maire qui dit la France sera une terre de blockchain, en réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'à 50%, probablement, les financements qui seront alloués à cette déclaration, bah, en fait, ils iront dans la poche de personnes qui vont développer des tableaux Excel, ou en tout cas redévelopper des tableaux Excel pour faire semblant d'être utile à quelque chose. Et en réalité, on va rater le vrai sujet que sont les crypto-actifs, les crypto-monnaies, les actifs numériques en général. Donc,
les crypto-monnaies et les monnaies privées, est-ce que c'est la même chose ou ça recouvre des réalités différentes?
Alors, ça recouvre des réalités assez différentes. Alors, le terme même de crypto-monnaie recouvre déjà plein de réalités différentes. Vous avez des crypto-monnaies comme Bitcoin, par exemple, qui sont dites pseudonymes. Donc, en gros, vous êtes caché derrière un pseudo, oui. Mais ce n'est pas anonyme parce qu'en réalité, on peut vous tracer derrière ce pseudo. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure, en réalité, Bitcoin est très peu utilisé à des fins illicites parce qu'en réalité, on peut traquer et remonter jusqu'à vous à chaque transaction. Donc, ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais vous avez d'autres crypto-monnaies qui, elles, sont anonymes. Et qui permettent de faire des transactions complètement anonymes. Vous changez d'adresse à chaque transaction et donc on ne peut pas vous tracer. Alors, instinctivement, on se dit évidemment c'est pour la drogue et les terrorismes, mais c'est également, par exemple, prenez un Snowden, prenez un Assange, prenez un lanceur d'alerte quelconque, c'est aussi des gens qui vont se servir de ces crypto-monnaies-là parce que sinon ils se font geler leurs avoirs par les États-Unis notamment, ce qui est arrivé à Snowden récemment. Donc c'est un peu toujours les deux mêmes faces d'une pièce, mais après c'est une question autour de la confidentialité. La confidentialité, bien sûr que c'est important. Et ça a comme prix qu'il y a des gens qui font des activités illicites. Mais chercher à annihiler toute activité illicite, en fait, ça termine en totalitarisme généralement. Donc, ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, vous avez crypto-monnaie, ça recouvre plein de réalités différentes. Vous en avez certaines qui permettent aussi de faire la programmabilité, comme je disais tout à l'heure, donc Ethereum ou Tezos. Vous ne pouvez pas, par exemple, programmer un Bitcoin pour faire des choses selon X ou Y conditions. Enfin, en réalité, on peut, mais dans des cas très, très particuliers. Donc, c'est moins... flexible, on va dire. Et puis vous avez effectivement des monnaies privées, mais monnaie privée, c'est à distinguer parce que en réalité dans l'histoire monétaire, alors on a un biais parce que en gros ça fait depuis les années 70 que maintenant le dollar est la monnaie de référence et que les monnaies nationales ne sont rattachées à rien, puisque en réalité elles sont rattachées à rien, il n'y a plus d'étalon or, il n'y a rien, donc on a un biais parce qu'on vit là-dedans depuis 50 ans. En réalité, les monnaies privées, vous prenez le 19e siècle aux États-Unis, il y avait autant de monnaies que de banques. Et c'était toutes des monnaies privées, oui, de la banque X ou la banque Y. Donc, ce n'est pas du tout nouveau hein, dans l'histoire de l'humanité. Ça a d'ailleurs été la norme pendant beaucoup plus longtemps que ça ne l'a été pour les monnaies dites publiques aujourd'hui. Donc, c'est à distinguer. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs comme ce que voudrait faire Facebook. Hein, c'est encore à l'état de papier aujourd'hui. Donc, ça se trouve, ça n'existera jamais, ce fameux Libra. Mais Facebook veut en fait nouer les deux notions. C'est-à-dire, on a besoin d'argent dans le monde numérique. Et cet argent, il peut être privé. Donc, je vais faire une sorte de crypto-monnaie privée. Ça, c'est ce que dit Facebook. Maintenant, ce que vont dire la plupart des gens dans le milieu des crypto-monnaies, en fait, c'est de dire, bah oui, mais l'argent dans le monde numérique, en fait, il peut exister soit sous forme bancaire traditionnelle ou sous forme privée. Dans les deux cas, en fait, la seule chose qui change, c'est la personne qui vous surveille, en gros, parce que avoir une monnaie complètement numérique, donc sortir du cash par exemple aujourd'hui, globalement c'est ce que ça veut dire, c'est donner les clés de votre vie à votre banque, hein, puisqu'on peut vous geler vos avoirs, on peut vous empêcher de faire certaines transactions, de participer à certains meetings, etc., etc. Dans le deuxième cas, vous le donnez cette possibilité à Facebook. Donc pour moi, bon, la différence est minime. Dans les deux cas, j'ai pas envie. Ce que proposent les crypto-monnaies, c'est de dire, bah non, nous on veut transposer les caractéristiques du cash dans une certaine mesure aussi dans le monde numérique. Donc le cash, bah, si je vous donne un billet de 2 euros, il n'y a pas de trace que je vous ai donné ce billet de 2 euros. Je ne vous ai pas fait un KYC, donc un Know Your Customer. Si je vais acheter un magazine au kiosque en bas de ma rue, on ne me demande pas mon identité pour acheter ce KYC, enfin pour acheter ce magazine. Donc le Bitcoin, c'est plutôt cette perspective-là de dire non, là on va vers le tout sécuritaire, le tout identité de tout partout, ce n'est pas possible. Donc on a besoin de cette monnaie du monde numérique.
Et si on revient, donc on commence à y voir plus clair, Si on revient sur le monde de la formation, est-ce que la blockchain peut avoir un sens sur des grands groupes du CAC 40 qui ont la taille suffisante? Est-ce que ça a un sens ou pas du tout?
Alors, pour la formation en particulier ou...
Pour la formation, l'éducation, la gestion de la formation autour de, par exemple, du diplôme, de la certification, des échanges, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas de, la blockchain n'a pas d'intérêt dans ce domaine-là? Puisque
Bah, il y a...
certaines personnes ont parlé de la learn chain, donc buzzword, ou est-ce que derrière ça peut avoir une réalité pour peu qu'on trouve les usages?
Alors, je ne sais pas ce que c'est que la learn chain,
Alors, moi non plus, mais bon, le mot.
mais. mais. Enfin, pas instinctivement, j'allais dire instinctivement, mais bon, en réalité, j'ai quand même un peu réfléchi à ce sujet-là. Bon, il y a un sujet méta, en fait, qui est qu'il y a un sujet de formation parce qu'il faut se former à cette technologie-là. Mais bon, ça, c'est un sujet où la blockchain et les crypto-monnaies sont un sujet de formation. Mais mettons ça de côté pour l'instant. Pour moi, dans le domaine de la formation, en gros, il y a deux sujets qui remontent, mais. Disons que c'est vraiment en grattant et en réfléchissant longtemps, parce que initialement, c'est pas une technologie qui est faite pour gérer la formation d'entreprise. Maintenant, il y a d'autres technologies qui n'étaient pas faites pour faire certaines choses, et puis on a réussi à les tordre pour qu'elles puissent faire des choses intéressantes, donc pourquoi pas. Ces deux cas d'usage-là, le
Il existe des corps intermédiaires qui valident, qui donnent des labels de qualité, etc. Et ça pourrait très bien, cette reconnaissance mutuelle, alors qu'ils sont portés par des États ou des corps intermédiaires dans la formation professionnelle, mais ça pourrait très bien être géré d'apprenant en apprenant.
Oui, alors effectivement, alors je vais donner juste mes deux choses, mais je
Je t'en
reviens à
prie,
ça
pardon.
juste après parce que c'est très intéressant. Le premier cas qui est lié à ce que vous dites, c'est effectivement le cas de certification. Et on l'a vu, effectivement, on a une technologie qui nous permet de certifier de manière certaine que des choses se sont passées. Et ce, sans forcément le tiers de confiance pour aller demain ou dans 10 ans certifier qu'on a bien obtenu telle ou telle certification. Donc ça, c'est intéressant, mais... Comme je disais tout à l'heure, là où c'est pour ça que je dis que ça ne va pas non plus révolutionner tout, c'est que toute la partie authenticité, la technologie ne sait pas le faire. Donc il y a toujours, typiquement, on peut certifier sur blockchain un diplôme, mais premièrement, il faut effectivement délivrer la formation, et ça, la blockchain, elle n'en sait rien, que la formation a été effectuée ou pas, et que la personne a acquis ses compétences ou pas, donc ça, c'est un autre sujet. Et deuxièmement, il faut que ce diplôme soit vrai. Donc ça, c'est des choses où il faut le plugger à l'existant, il faut se débrouiller pour que le cas d'usage se serve intelligemment de la blockchain, mais la blockchain ne résoudra pas tous les maux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de la gestion de points, entre guillemets, mais par points, j'entends argent qui peut être dépensé d'une certaine manière, typiquement de l'argent du compte personnel de formation, mais ça voudrait dire avoir un projet très large avec les autorités publiques sur la gestion de ce compte personnel de formation. Et là, on aurait comme avantage d'utiliser cette technologie-là, de pouvoir faire du pair à pair. Donc on pourra donner 1 € de mon compte personnel de formation à mon voisin, à mon ami, à quelqu'un qui m'a aidé, à quelqu'un que je veux favoriser dans sa démarche de formation, etc. Mais pour...
Donc, on aurait pu l'intermédiation de la Caisse des dépôts, par exemple.
Par exemple, on pourrait avoir ça,
D'accord.
effectivement. Pour revenir donc au dernier point, enfin au point d'avant que vous aviez mentionné, effectivement, c'est aussi envisagé par toute une d'un certain nombre de personnes pour favoriser l'apprentissage pair à pair. Alors, ça ne fait, encore une fois, ça va être la partie plutôt ancrage technique, c'est-à-dire que toute la partie apprentissage pair à pair, ça reste des méthodes pédagogiques qui doivent être développées pour effectivement favoriser le peer-to-peer, l'apprentissage donc. Qui remontant, etc., etc. Mais on a ici une brique technique qui permet par exemple de s'attribuer des badges où on n'aurait plus besoin de passer par un tiers de confiance. Donc moi je suis, je sais pas moi, je suis spécialiste de la charpente, je suis charpentier, voilà. Quelqu'un veut se former à cela, et bien je vais le former à ça, et une fois que ce sera fait, je pourrai moi-même lui délivrer une sorte de badge de réputation. C'est-à-dire je mets ma réputation en jeu en disant que cette personne-là est formée. Et en fait, plus je donne des badges qui ont de la valeur, c'est-à-dire que moins les gens vont voir ce genre de personne et s'aperçoivent qu'en fait il n'est pas formé. Si ça n'arrive jamais, en fait mon badge va prendre de la valeur parce que je suis quelqu'un qui donne des vraies certifications et qui forme bien les gens. Mais ça c'est très intéressant. Mais la blockchain n'est que la brique technique. La blockchain c'est ce qui va permettre au badge de circuler, de se l'envoyer en pair à pair, etc., etc. Mais c'est pas ça qui va gérer l'apprentissage évidemment entre deux individus ou entre plus.
Ça serait donc la création d'un diplôme privé?
existe déjà. Il y a les diplômes reconnus d'État et il y a les diplômes non reconnus d'État. Donc, ça existe largement, largement déjà. C'est juste que ça, en fait, ça décentralise encore plus parce qu'aujourd'hui, les diplômes privés, c'est effectivement des organismes privés qui les délivrent et après qui se créent une réputation. Ici, on a la possibilité d'être un peu plus liquide sur cette réputation et soi-même. En fait, ça se rapproche beaucoup des recommandations LinkedIn. Mais avec cette capacité de les faire valoir de manière certaine et de mettre sa réputation en jeu. Parce que, évidemment, il y a plein de recommandations LinkedIn où soit c'est des faux profils qu'on fait la recommandation, soit en fait, de toute façon, ça coûte rien de recommander puisque bah, personne ne voit jamais qui a recommandé qui. Donc, on aurait là-dedans aussi toute une partie réputation qui serait très importante pour donner de la valeur aux recommandations et aux badges de compétences.
Donc, c'est un vrai choix de société. Qui se dessine avec la technologie, hein, potentiellement.
Bah, c'est en tout cas sur tout ce qui concerne une grande partie de la population, mécaniquement ça va demander à être des choix publics. Ou alors à pousser ça par des entreprises et à faire en sorte que ça se harmonise partout. Hein. Évidemment, tout le monde peut lancer une entreprise là-dessus et faire en sorte que ça marche. Mais il y a un côté social là-dedans. Il y a un côté, mon badge, il a de la valeur si je pense que je pourrais en faire quelque chose derrière. Donc, oui, c'est un choix de société, c'est peut-être un peu fort, mais disons que l'idée est là, oui.
Permettre de créer que chacun soit producteur de badges ou de diplômes, voilà. Ça évite les intermédiations, mais ça développe un esprit libertaire où chacun devient producteur de valeur sans passer par l'intermédiaire de l'État, par exemple.
Ah, voilà. Par exemple, pour prendre un exemple politique semi-récent, on avait eu à un moment donné le président de la République qui avait libéralisé la profession des coiffeurs. En disant, bah, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir tel et tel diplôme. Maintenant, si quelqu'un est bon coiffeur, bah, il n'a qu'à lancer son salon. Ça rentre dans cet esprit-là, effectivement. Ça rentre dans l'esprit où si j'ai passé 5 ans dans un coiffeur reconnu et que je n'ai pas forcément mon diplôme, mais que je me sens compétent, j'ai peut-être reçu un badge de certification du coiffeur qui était avec moi, ou de mon patron, ou de X et Y. Et ça permet à cette compétence de faire valoir cette compétence de manière beaucoup plus rapide et liquide, et donc potentiellement de lancer derrière un business, de faire un salon de coiffure, etc. etc.
Très bien, bah, ça veut dire que comme on l'a dit tout à l'heure...
Mais ça marche en entreprise, hein, pardon, je coupe, exactement, mais oui, oui. Je suppose que c'était là que peut-être que vous vouliez aller, mais on retrouve ces dynamiques en entreprise. Nous, on a fait, alors c'est pas exactement ça, mais on a fait un produit qui s'appelle Team, qui sont en fait des jetons intra-entreprise pour faire du crowdfunding. Donc en fait, de la même façon que Kickstarter existe et les gens vont financer des projets qui après vont se lancer, en fait, pour l'intrapreneuriat, il manquait un peu une brique comme ça. Et donc nous, on a fait un produit qui s'appelle Team et qui permet de faire ça. En fait, qui permet à des collaborateurs d'une entreprise eh bien, en fait, de soumettre des projets au financement de qui ? Eh bien, de leurs collaborateurs, qui eux-mêmes se voient attribuer une partie du budget, pas formation, mais du budget innovation. Donc vous avez la direction innovation qui va dire bah, je dédie par exemple 200 000 euros à l'innovation sur les 3 prochains mois. Ces 200 000 euros vont être partagés entre tous les collaborateurs et après les collaborateurs ont une plateforme à disposition sur laquelle ils peuvent déposer leur projet d'entrepreneuriat et dire bah, j'ai besoin de tant de financement, est-ce que vous voulez financer mon projet ? Et après c'est les collaborateurs qui vont effectivement directement donner des jetons dans ces projets-là. Donc on peut avoir la même dynamique sur la reconnaissance de compétences. J'ai travaillé dans tel service, donc du coup je gagne telle compétence et c'est reconnu par tel manager, et donc du coup je vais aller pouvoir le faire valoir dans le service d'à côté. Ça, par exemple, dans les entreprises de services, audit, conseil, etc., ça peut être très intéressant de faire valoir qu'on a travaillé dans telle industrie, par exemple, et que donc du coup on a une expertise qui peut être reconnue. Voilà, il y a plein de choses à imaginer. Mais toujours avec cette question technologique derrière qui est une question de standard en fait. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, est-ce qu'on va sur une blockchain dite publique, donc une infrastructure ouverte, ou est-ce qu'on va sur une blockchain dite privée, mais dans ce cas-là, où est-ce qu'on met les serveurs ? Voilà, on retombe toujours sur les mêmes questions, qui sont généralement les questions justement où là, bah, par exemple, Blockchain Partner, donc mon entreprise, c'est sur ce genre de questions qu'on va être pertinent. C'est là qu'on va accompagner nos clients sur le choix.
Et financièrement, ça représente quel type de budget ?
Alors, ça dépend de l'ambition et ça dépend le fameux choix blockchain public ou blockchain privé. Après, il y a aussi dans quelle démarche on l'inclut. C'est-à-dire que nous, on a des clients, ils font une formation, un atelier et puis ils s'arrêtent là. Vous en avez d'autres qui arrivent et qui disent « moi, je suis déjà formé, je veux faire tout de suite un cas d'usage, c'est parti ». Donc, pour reprendre peut-être les étapes une par une, en tout cas, nous, de comment on accompagne les entreprises, de quel budget ça correspond. La première étape, c'est très souvent effectivement une formation, comprendre à quoi ça sert, pourquoi ça existe, est-ce que je dois en faire ou pas. Parce que voilà, parfois la réponse c'est non, ça ne vous concerne pas, et puis vous pouvez regarder
donc,
ça de loin.
On forme les dirigeants, les décideurs.
Alors, ça peut être effectivement les dirigeants, les décideurs. C'est important pour lancer une dynamique entreprise. Maintenant, parfois, ça peut être un étage en dessous ou deux étages en dessous. Simplement former des équipes métiers pour de l'identification de cas d'usage. Ça peut être au niveau de la direction innovation. Ça peut être au niveau de la direction des systèmes d'information. Voilà. Donc, il y a plusieurs endroits où ça peut être fait. Mais effectivement, disons que la formation initiale peut être pour voir la perspective autour de ces technologies et savoir s'il faut oui ou non investir. C'est vrai que c'est plus pertinent auprès de décideurs parce que c'est eux qui vont justement décider d'engager un investissement dans une direction donnée et pas que ça se transforme en POC qui tourne en rond et qu'au bout de 3 mois, il ne se passe rien. Donc, c'est plus pertinent. Maintenant, voilà, on le fait à plusieurs niveaux et je pense que ça peut être fait à plusieurs niveaux. Une fois qu'on a fait la formation, si jamais il y a un intérêt pour la technologie, il faut effectivement avancer en faisant des ateliers d'idéation, découverte de cas d'usage, qu'est-ce qu'on en fait pour nous, qu'est-ce qu'on en fait pour notre industrie, etc. etc. Après, il faut trier, parce qu'il y a souvent beaucoup d'idées qui sortent, et donc savoir identifier les plus pertinentes à développer. Et en fait, ça nous permet d'arriver à une sorte de cahier des charges pour expérimenter tout ça. Donc ça, en gros, typiquement, pour faire un point budget, sur les premières étapes, formation, ça va dépendre de la taille, du nombre, de la durée, etc. Ça peut être 1 000 euros, ça peut être 5 000 euros, etc. etc. Atelier, bah, ça va dépendre, mais ça va être de l'ordre de quelques milliers d'euros également. Et donc après, on arrive en gros sur le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est pour développer une expérimentation qui va derrière soit être validée et passer en production, soit être invalidée parce qu'on n'a pas réussi à prouver un concept, et donc du coup, ne pas rentrer en production. Une preuve de concept, en gros, ça peut être de l'ordre de 30-40 000 jusqu'à 100 000 euros. Ça dépend de l'ambition, en fait. Et ça dépend aussi de ce que chacun entend par preuve de concept. Parce que vous avez des gens derrière preuve de concept, ils entendent ce que c'est-à-dire une vraie preuve de concept qui n'a rien d'autre que la preuve de concept. Et puis vous en avez d'autres pour lesquels c'est important d'avoir un petit peu d'interface, un petit peu de rendre ça un peu joli pour que ce soit utilisable et montrable, qu'il y ait un démonstrateur, etc. etc. Donc ça dépend aussi pour le budget final. Maintenant, selon justement si on est parti sur de la blockchain publique, donc plutôt une interface vers de l'existant du public qui n'est pas géré par nous, en fait les budgets vont rester assez limités. Et c'est-à-dire que pour passer d'un POC à de la mise en production sur quelque chose qui est de l'ordre de l'interface avec quelque chose qui existe déjà, bah en fait, en réalité, on va rajouter quelques dizaines de milliers d'euros, mais ça ne va pas exploser les plafonds parce que le truc est déjà presque en production en réalité. Maintenant, s'il s'agit de mettre en production une blockchain privée, alors là, pour le coup, c'est une autre histoire parce que autant le POC pour une blockchain privée, bah, ça peut se faire très rapidement. Pareil, hein, ça va être les mêmes ordres du budget. Autant mettre en production une blockchain privée, comme je disais, ça peut être 3 ans et demi à essayer de convaincre des gens, de les mettre autour de la table, de faire des tests chez eux, tests d'intrusion, comment on plug avec le système informatique, etc. etc. Et en fait, là, ça peut être 100, 500, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, ça peut aller très très loin. Ça dépend de l'ambition du projet. Voilà. Nous, on préfère, je pense qu'on l'aura compris, mais on préfère la première option, c'est-à-dire plutôt des blockchains publics, ce qui est généralement plus puissant et moins cher. Mais évidemment, ça peut avoir de la pertinence de partir sur du privé, mais voilà, faut que ce soit réfléchi parce que sinon on rentre très vite dans un engrenage où on paye du jour homme consultant, voilà, et après on oublie la ligne budgétaire et au bout d'un an on est à 500 000 et il s'est rien passé. Quoi.
Absolument. Et d'autant plus que c'est toute la partie humaine qui prend le plus de temps pour réussir un projet technologique, c'est pas tellement la partie technique. Bien sûr.
Oui, j'en prenais l'exemple tout à l'heure des cas d'usage dans la logistique. Si on me demandait de faire juste la partie blockchain, on pourrait la faire en 2 mois. La réalité, c'est que mettre des gens d'accord alors qu'ils ont des intérêts divergents, c'est pas forcément la plus facile des choses, donc ça peut prendre facilement plusieurs années. Encore plus dans l'industrie financière d'ailleurs, et toutes les industries régulées, dans toutes les industries, l'assurance, le jeu, etc., tout ce qui est régulé, alors là, en plus, vous rajoutez une couche de complexité qui fait que les avocats rentrent dans la boucle. Ce qui est généralement assez mauvais signe pour la tenue des deadlines. Mais donc voilà, toutes ces choses-là, il faut les avoir en tête quand on lance un projet.
Très bien. Eh bien, moi, je trouve que ça éclaircit ce qu'était la blockchain, les usages qu'on peut en avoir, les modalités opérationnelles. Si vous avez convaincu dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut vous joindre ?
Alors, je suppose qu'on pourra transférer les informations de contact, mais en gros, nous, donc on est l'entreprise Blockchain Partner, donc on a un site internet qui est blockchainpartner.fr. Vous pouvez y aller d'ailleurs, même si c'est pour ne pas nous contacter. On fait beaucoup de contenu et de ressources
Très bien.
plutôt qualitatives, c'est-à-dire on fait pas vraiment dans l'actualité, on fait plutôt dans l'analyse. Donc, si ça vous intéresse de creuser plus le sujet, vous devriez trouver plein de ressources sur le sujet sur notre site internet blockchainpartner.fr. Et puis, si ça vous intéresse simplement de, eh ben, justement, faire une formation, voir comment on peut aller plus loin, discuter, eh bien, alexandre@blockchainpartner.fr, puisque, donc, du coup, c'est mon prénom, Alexandre, effectivement. Mon
C'est
nom
bien
de
fait.
famille étant Stachenko est compliqué, on s'est dit qu'on n'allait pas le mettre dans l'adresse mail.
Très bien.
Donc, voilà, alexandre@blockchainpartner.fr. Il n'y a pas de S à partner, tout le monde met un S, mais il n'y en a pas, voilà.
Très bien. Donc, de toute façon, on remettra les liens sous l'émission. Et si y a des donc sur des universités d'entreprise, on serait intéressé pour avoir des conférences de vulgarisation sur la blockchain. C'est des choses que vous faites?
Bien sûr, c'est même moi personnellement. Alors après, on est une vingtaine dans l'entreprise, hein, donc il y en a qui font du développement, il y en a qui font de la gestion de projet, du commercial. Moi personnellement, c'est beaucoup ce que je fais. Donc moi, je suis directeur général, donc je gère l'entreprise, mais aussi il y a des années où j'ai dû faire plus de 60 ou 70 heures de conférences dans l'année. Donc c'est une grosse partie de mon travail de faire des conférences, effectivement.
Ben, bravo, félicitations et je rappelle à tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de l'émission, on transmettra et puis comme on vous donnera les éléments avec le site, avec ses coordonnées, vous êtes sur LinkedIn, on peut vous contacter sur LinkedIn.
On peut me contacter sur LinkedIn. C'est
Donc on
pas l'endroit où
mettra.
je suis le plus réactif, mais ça m'arrive d'être quand même réactif. Mais il y a
Avec le
aussi,
mail.
pardon, on devrait normalement vous envoyer un petit livret décrivant la blockchain pour les entreprises, donc permettant de reprendre un peu ce que j'ai dit et puis d'aller un peu au-delà pour rentrer dans le concret sur certains cas d'usage qui peut être intéressant si jamais justement ça vous intéresse de creuser un peu plus le sujet.
Eh bien, merci Alexandre pour toutes ces informations. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.
Merci Stéphane et au revoir à tous.